Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Nous sommes en direct de 19h à 20h en ce mercredi 16 juillet 2025 et vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles. La Forêt des Possibles, c'est l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices des transitions écologiques, sociales et culturelles de Marseille et de sa région. Ces acteurs et actrices qui, seuls, seraient comme des arbres isolés pour répondre à l'ensemble des questions, mais qui, ensemble, forment une grande forêt comme un écosystème où chacun et chacune a sa petite place à prendre pour agir sur ces différentes questions. Et chaque semaine, nos invités nous présentent leur parcours, leurs projets, leurs engagements, puis ensuite la façon dont, à leurs échelles, ils participent à transformer cette société du moi au nous et du nous au tout. Une forêt qui vous invite également à nous retrouver tous les jeudi du mois, et ça sera dès demain pour la suivante. C'est au court-circuit à partir de 19h. Et ce soir, nous avons le plaisir de te recevoir, Basma Chayani, bonsoir.
Bonsoir.
Et moi, je suis Marin Moffret avec en régie Jeanne Ré, bonsoir.
Bonsoir.
Et Elissa Guyon, bonsoir Elissa. Bonsoir. Qu'on n'a pas très bien entendu, mais ce n'est pas grave. Et donc, Basma, tu es venue ce soir pour nous présenter Sind Sisters. Mais ce qu'on aime bien présenter avant de présenter les projets, c'est de présenter les personnes. Et donc, avant de présenter Sind Sisters, j'aimerais que tu puisses un peu nous présenter quel a été ton parcours, quelles ont été tes grandes questions avant d'arriver sur des enjeux d'engagement qu'on présentera juste après.
Avec plaisir. Donc, je m'appelle Basma et tout d'abord, j'aimerais vous remercier de m'accueillir. Merci beaucoup. Une équipe bien sympathique qui a su un peu me détendre. J'avoue que je suis un peu nerveuse. Ma vie, mon œuvre.
Vas-y.
J'ai 33 ans et je suis algéroise. Je suis arrivée en France en 2015 après... des études en design graphique à l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Moi, je viens d'une famille qui a travaillé dans la culture, qui travaille toujours dans la culture. Et c'est un élément important pour la suite. À ce moment-là, quand j'étais aux Beaux-Arts, ma vie a été, ponctuée de vernissage et ma mère était bibliothécaire, elle est maintenant à la retraite. J'ai grandi un peu dans cet univers. Au moment où j'étais aux Beaux-Arts, ça a été, un premier contact avec l'altérité. Ça a été le fait que j'ai commencé à enseigner dans une école d'art privée. Je me suis rendu compte à ce moment-là que... j'avais un parcours qui était assez spécial et que les autres personnes étaient différentes, avaient d'autres références culturelles, un autre bagage, un autre parcours. Ça a été mon premier moment de grand questionnement sur qui j'étais, quelles étaient mes habitudes. Qu'est-ce que nous lèguent nos parents et comment on fait aussi pour faire avec l'autre.
Quand on a préparé l'émission, le mot d'altérité, il est venu plusieurs fois dans ta bouche. Est-ce que tu peux nous donner la définition de l'altérité et ce pourquoi c'est important pour toi ?
La définition que je donnerais moi, je ne suis pas forcément une scientifique. L'altérité, c'est ce qui fait l'autre. C'est ce qui fait que on est des groupes où on se trouve des points communs divers horizons, diverses dimensions, et ce qui fait qu'on se différencie d'autres personnes. Et l'altérité, ça peut être un concept qui peut être appliqué à plein de choses. Moi, c'est quelque chose qui m'a tenu à cœur et qui m'a marqué parce que on parle beaucoup de faire ensemble et de faire avec les autres. Et ça a été un élément qui m'a permis de cette expérience d'enseignement et de sortir de la coquille culturelle Ça a été quelque chose qui m'a fait explorer qui étaient les autres et surtout quel était leur rapport à l'art. Donc c'est vrai que l'altérité et tout ce qui découle, la médiation artistique et culturelle, ont un peu jalonné mon parcours.
Et alors tu me disais que aussi que tu avais fait une thèse, et que tu avais fait une thèse sur justement ces représentations de l'altérité, ce que tu appelles les cultural studies.
Oui.
Et notamment sur les rapports entre l'art africain et après la manière dont on se positionne par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui. Donc j'ai fait un master recherche à l'université Paul Valéry. En cultural studies, donc les cultural studies pour en parler un petit peu, c'est un courant de recherche qui est critique et qui a une approche transversale dans le sens où c'est un mélange de plein d'autres domaines de recherche. Donc il y a de l'histoire, il y a de la sociologie, il y a de la géographie, de l'ethnologie, de la philosophie, etc. Et ce master là, il m'a permis d'explorer les dynamiques culturelles, donc les choses qui me questionnaient. Qu'est-ce que la culture légitime et quelles étaient un peu les dynamiques de pouvoir qui transcendaient le fait que moi j'ai accès à de l'art et pas forcément d'autres personnes. Et pourquoi ? Et ça m'a aussi permis de dézoomer par rapport à ça et de dire en fait c'est pas bien ou mal. Et c'est pas plus intelligent ou moins intelligent d'être de ce bord ou de l'autre ou d'un autre. Et donc, beaucoup plus tard, j'ai commencé une thèse que je n'ai pas finie à l'Université de Bordeaux, qui était en co-direction sciences de l'art et sciences de l'information et de la communication. Donc, ma thèse, le sujet de ma thèse, c'est à propos de l'approche esthétique et des moyens de promouvoir l'art contemporain africain en France. Mmh. Grosso modo, comment ça se traduit ? C'est comment font des structures françaises en France pour parler de l'art contemporain africain. Et je fais juste un petit crochet. Art contemporain africain qui semblerait être une sorte d'unité en Europe, mais qui est beaucoup plus divers et varié. Et donc, j'aimais à dire que c'était les arts contemporains africains et de ces diasporas. Donc, j'ai tenté par là d'explorer comment un mouvement artistique avait évolué et ensuite pouvait être repris par des personnes pour pouvoir en parler. Donc, ces personnes-là qui travaillent dans des musées, qui font de la communication et de la médiation artistique. Comment font ces personnes-là pour se dire on va promouvoir une œuvre ou un artiste ? Quelles œuvres on choisit ? Et par exemple, comment se passent ces mécanismes-là de choix ? Est-ce qu'on se dit que notre public de notre musée va apprécier telle œuvre ? Et pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette œuvre elle est plus représentative de l'art contemporain africain en France ? D'étudier aussi les couleurs sont importantes, le rapport à la texture, mais aussi parfois dans, vous avez peut-être dû remarquer, parfois dans des parcours d'exposition, on a des choix colorimétriques ou des expressions qu'on utilise sur les cartels qui sont un peu différents que ce qu'on peut faire pour d'autres artistes.
Mmh. Et donc dans ton parcours, il y a ce rapport à l'art et ce rapport à une approche sociologique. Ou une prise de conscience dont tu parlais sur l'altérité, de qui nous sommes et comment nous positionnons les uns avec les autres. Et ça nous amène progressivement vers le positionnement de Sound Sisters. Si on doit décrire très rapidement, je ne fais que lire ce que j'ai sous les yeux, c'est que Sound Sisters, c'est une association pour l'égalité des genres dans les métiers des musiques actuelles et qui fait aussi de la sensibilisation et de la lutte contre les VHSS. Ce qui peut être intéressant, ça va être de prendre chacun de ces mots. Il y a tellement de choses qui peuvent ensuite être creusées sur chacun de ces bouts de description. Est-ce que tu veux nous le présenter plus en détail ?
Oui, avec plaisir.
Son intention au départ ?
L'intention de départ, c'était tout a démarré avec le programme de mentorat. Donc, c'est cet axe-là de favoriser l'égalité dans les métiers des musiques actuelles. Donc on est parti du constat de la masculinisation de beaucoup de métiers que les autres métiers étaient genrés. Donc on avait des tendances par sous-domaine d'activité d'avoir beaucoup plus de femmes ou beaucoup plus d'hommes dans certains domaines. Donc ça, c'était le premier constat. Et notre toute première action, donc, ça a été de mettre en place ce programme de mentorat. Programme de mentorat donc, qui vise à l'insertion professionnelle des femmes et des personnes minorisées de genre dans les métiers des musiques actuelles. Les métiers des musiques actuelles, nous, ce qu'on vise, c'est les métiers non performatifs. C'est-à-dire tous ces métiers qui font que l'industrie musicale existe. Donc des bookers et des bookeuses, des personnes qui s'occupent de la régie technique, des personnes qui organisent des tournées. Tous ces métiers-là qui font que toute cette machine fonctionne bien.
Quand tu dis non performatif, c'est dans le fait de ne pas faire une performance artistique. Donc tout ce qui va être autour.
Oui.
C'est pas le fait d'être productif, enfin, performer, enfin...
Non, pas du tout. Ouais. Non, c'est par rapport à la performance. Donc c'est un peu pour dire que dans notre programme, on a eu des musiciennes et des musiciens, mais ce n'est pas l'objectif du programme. C'est plutôt de travailler sur tous les métiers qu'on ne voit pas finalement quand on fait partie du grand public.
Est-ce que tu peux en donner quelques exemples du coup, les reformuler?
Les métiers qu'on ne voit pas?
Ouais.
Je fais un petit clin d'œil à la régie. Donc, toutes les personnes qui sont à la régie sont aux lumières. Les personnes qui vont faire de la communication. Les personnes qui font de la production. Donc, faire en sorte que tout le monde soit au bon endroit, mange bien et au bon moment. Et dorme bien quand on organise un festival. Toutes ces personnes-là qui permettent de commercialiser, de distribuer... j'allais dire des CD, de pouvoir mettre en ligne de la musique. Tous ces métiers-là, c'est un peu ça qu'on a analysé et ça où on vise un peu de changement. Donc ça, c'est un peu l'origine de l'association. Et donc, je dois quand même dire que moi, j'ai été bénéficiaire du programme de mentorat de la toute première édition. Donc au moment de la première édition, l'association en elle-même, en tant que structure légale, n'existait pas. C'était porté par une autre association, c'était post-Covid, en 2021. Et donc les deux cofondatrices se trouvaient empêchées ne pouvaient plus organiser de festival. Donc elles se sont dit, ok, ça c'est une thématique qui nous tient à cœur, ça fait longtemps qu'on veut faire quelque chose et là on a un peu l'occasion. Elles ont monté un projet, elles ont demandé un financement du Centre National de la Musique et c'était parti. Et merci, je te dis merci parce que hier je continuais à peaufiner mes notes et je réfléchissais à qui j'étais en 2021. Et je pense que la personne que j'étais en 2021, sans ce programme et sans ce projet, n'aurait jamais accepté de venir ici et de parler comme ça. Donc ce projet-là m'a fait énormément de bien et m'a changé.
Parce que comment il se passe, ça fait partie des trois axes, on parlera des deux autres après, mais restons sur le programme de mentorat. Comment ça se déroule concrètement?
Donc je vais parler de la dernière édition puisque ça a changé au fur et à mesure, on a fait évoluer les choses. Donc la dernière édition, donc ce qu'on a fait, c'est que on essaye de contacter des mentors. Donc c'est des femmes qui sont en poste et qui souhaitent partager leurs connaissances, leurs compétences et aussi parler un peu de leur parcours de femme dans ces métiers-là. Et donc on fait un programme pédagogique et le programme pédagogique et ensuite il y a une phase théorique, une phase pratique. Donc pendant la phase théorique, les mentorés sont avec la mentor et peuvent apprendre de son parcours. Et l'après-midi, on fait appel à une structure qui s'appelle Régalons-nous, donc structure merveilleuse à Marseille, qui sensibilise au sexisme. Grâce aux outils de l'éducation populaire. Et donc pendant ces ateliers, on travaille sur qui on est, quelles compétences on a, quel est notre passé, quelles sont nos expériences, qu'est-ce qui fait que nous sommes ici aujourd'hui. Et aussi, on fait un peu de projection dans le futur. Comment je me vois, pourquoi, quels seraient les outils qui me manquent. Et donc, c'est des ateliers, comme on dit, d'empouvoirment.
En capacitation.
Oui.
Empowerment en anglais.
Et donc, ça, c'est la phase théorique. Et on passe ensuite à la phase pratique. La phase pratique, donc, c'est le même groupe de mentorés qui se voit octroyer un petit budget et doit faire organiser une soirée de son choix de A à Z. Donc, construire tout un projet de A à Z avec notre aide. Et ensuite, ça nous fait une jolie soirée à passer ensemble et à fêter la sororité.
Et alors toi, qu'est-ce qui t'a amené là? Parce que tu nous racontais le fait de faire une thèse donc, sur la partie de l'art contemporain africain. Donc je vois un rapport avec l'art jusque-là, mais pas forcément avec la question des musiques actuelles. Peut-être que même tu peux décrire ce que c'est que les musiques actuelles. Et finalement aussi le fait de vouloir participer à toute cette organisation non performative dont tu parlais. Donc tout ce qui va être autour, les petites mains, les petites fourmis qui vont rendre une performance possible. Quel a été le cheminement?
Le cheminement, c'est qu'après le master recherche en Cultural Studies, j'avais un nouveau regard sur le monde, mais j'avais un peu de difficulté à travailler. J'ai fait un master pro, management des organisations et des manifestations culturelles. Et donc, j'ai été en alternance, puis à 4 ans, dans un festival de musique qui s'appelle le Festival d'Aix. C'est un festival d'opéra. Et donc, j'étais en poste. Ces questions-là, on en parlait pendant des comités techniques, mais à un certain moment, j'étais un peu arrivée à la limite de ce que je pouvais faire dans ce format-là. Et j'ai croisé le programme de mentorat sur LinkedIn et je me suis dit, peut-être que justement, m'ancrer un peu plus dans les musiques actuelles, ça pourrait me faire du bien professionnellement pour mon capacité encore plus. Que je voulais rencontrer de nouvelles personnes, des personnes un peu de ma génération et qui écoutaient la même chose que moi. Il y a aussi le fait de pouvoir faire du réseau. Et donc, j'ai postulé en me disant, je vais voir. Parce que jusque-là, je me considérais pas trop comme étant une féministe. Quand j'étais plus jeune, les représentations du féminisme ne me parlaient pas trop. Je me trouvais trop timide pour ça, ou je l'ai trouvé trop extravertie. Donc bref, je ne me voyais pas là-dedans. Au fur et à mesure, j'ai beaucoup consulté, j'ai été une féministe de livres. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas, finalement, c'est quelque chose qui me tient à cœur, je vais me lancer. C'est là que... J'ai découvert que finalement, il y avait tout autant de féminisme que de personnes sur cette terre, et bien au-delà. Qu'on avait toutes et tous quelque chose à dire, à apporter, à construire pour et au travers du féminisme. Pour ce qui est des musiques actuelles, donc c'est les musiques amplifiées. Voilà. C'est un peu la définition courte que je saurais dire.
C'est quoi une musique amplifiée?
C'est une musique qu'on utilise des appareils électroniques pour pouvoir la diffuser. Je dirais ça.
Ok. Sur la question du féminisme, on en parlera dans toute la deuxième partie de l'émission, sur la partie du rapport au tout.
Ouais.
Quand on préparait l'émission, tu me disais qu'il y avait... par rapport à ces enjeux d'égalité, un certain nombre de positionnements de l'association qui étaient plus, on va dire, contre, sur le fait de détruire un certain nombre de mauvaises habitudes, notamment sur la lutte contre les VHSS, et d'autres qui étaient plus dans une construction de quelque chose de positif, et notamment avec le mentorat.
Oui.
Et donc ça permet d'ouvrir sur le fait qu'il y ait plusieurs axes. Vous avez un programme de mentorat, des accompagnements de structure, et puis ensuite une offre de formation. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ?
Oui. Jusque très récemment, on avait deux axes. Donc le programme de mentorat qui nous permettait de construire des belles choses et de pouvoir répondre à un besoin, apporter notre pierre à l'édifice. Et donc le deuxième axe, c'est celui de la lutte contre les VHSS ou les VSS, Il y a plusieurs manières de le dire. Donc, violence et harcèlement sexiste et sexuel ou violence sexiste et sexuelle. Cet axe-là, c'est de l'accompagnement à la lutte pour les publics et les structures en milieu festif. Et donc, c'est un peu cet axe-là. Je développerai un petit peu ce qu'on fait plus précisément. Mais cet axe-là nous permet de, plutôt que de construire, de déconstruire. Et c'était important pour nous à un certain moment de dire on est vraiment, on a un écosystème au niveau de nos valeurs, un écosystème conceptuellement, c'est que on peut à la fois bâtir des choses et inclure de nouvelles personnes, mais aussi militer à notre manière. Et donc comment ça se traduit cet axe de lutte contre les VHSS? Principalement, donc on fait des sensibilisations avec des publics divers et variés. Par exemple, pendant le festival Je crains des gains, ou pour une promo de personnes qui étaient à Courtrage-Mais. Comment on le met en place la majorité du temps, c'est au travers de la Brigade du Love. La Brigade du Love, c'est le nom de notre maraude. Et c'est une maraude qui est constituée de bénévoles qui sont sensibilisés. Donc on essaye de leur transmettre quelques notions théoriques, aussi de leur donner une petite vue sur que dit la loi. Et aussi on essaye de les outiller au mieux possible sur comment réagir, comment observer, comment réagir, comment signaler, tout en se protégeant et en respectant les autres. Et donc, à côté de ces bénévoles, nous avons toujours un ou une référente minimum. Et donc, ces personnes-là, c'est des personnes qui sont formées et qui sont déployées pour à la fois préparer une intervention avec les organisateurs du festival ou du concert, aussi pour manager, on va dire, gérer les bénévoles, et aussi, c'est ces personnes-là qui sont responsables d'intervenir en cas de signalement. Donc, de pouvoir intervenir et écouter les victimes potentielles. Ça a été quelque chose qui a pris du temps, qui a été dur. Mmh. On s'est dit que nous, on serait là pour les gens qui auraient besoin de nous. Donc, on a choisi de ne pas s'occuper, de ne pas être répressif et répressive. Ce n'est pas notre endroit. Nous, notre brigade du love, les bénévoles sont là pour sensibiliser et faire de la médiation et observer. Donc parler du consentement, informer par rapport à l'association. Et les référents et référentes sont là pour accueillir les victimes et pouvoir les accompagner, les informer sur leurs options.
Basma, je suis désolée, je reprends un petit peu cette question. Tu parles des publics que vous accompagnez grâce à la Brigade du Love. Et là, on est sur, par exemple, les festivaliers et festivalières qui participent à un événement. Il me semble aussi qu'il y a un volet accompagnement des structures. Et du coup, voilà, quand on va un peu en backstage, ça m'intéresse vachement de savoir comment vous intervenez, quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour justement éviter, prévenir ces problèmes en amont et peut-être faire remonter s'il y a des soucis au niveau même des organisateurs et organisatrices, quoi.
Oui, merci. Ce que nous, on essaye de faire le plus possible, c'est de travailler en amont pour... à partir du moment où il y a une personne qui représente une structure qui nous contacte pour parler du fait que il est bon et utile d'avoir un protocole de gestion et de gestion et de lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels au sein de sa structure et dans le milieu festif. Et qu'est-ce que c'est un protocole? C'est le fait d'identifier quels sont les agissements qui sont pas forcément répréhensibles, mais qui sont interdits. Et quelles sont les conséquences? Ça, c'est une grande question. Donc, on essaye de les faire réfléchir en amont sur, finalement, quand quelqu'un fait quelque chose, comment ça se passe? Ou alors, ce protocole-là aussi, doit contenir des commentaires et des indications sur telle personne est victime de tel acte, qu'est-ce qu'on fait ? Au niveau de notre structure, il y a telle et telle personne qui est là-dessus, qu'on pourrait contacter. Il y a une équipe de sécurité, une équipe de secouristes, par exemple, ou les pompiers qui sont à tel endroit. Et voilà le processus de gestion et de transmission de l'information. Donc, il y a cette partie-là. Il y a aussi le fait de sensibiliser les organisatrices sur le fait d'avoir un ou une référente à l'année sur leur structure. C'est difficile étant donné le fait que beaucoup de structures culturelles n'ont pas beaucoup de postes salariés, donc des postes qui sont là, des personnes qui sont là tout le temps. Ça, c'est dur. Et c'est aussi quelque chose, c'est une grosse responsabilité pour quelqu'un qui est salarié. Donc on essaye d'accompagner aussi les personnes et de les conseiller sur quelque chose qui peut être pérennisé. Et par exemple, au début, on avait les mêmes bénévoles qu'on avait sensibilisés et ensuite qu'on appelait sur plusieurs événements. Et à un certain moment, on s'est dit non, finalement, c'est les mêmes personnes qui bénéficient de la sensibilisation et qui peuvent faire les choses. Et puis, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup, tout un été à faire ça. Donc, on s'est dit non, on va changer un peu de méthode et on va essayer de faire en sorte que chaque structure puisse mobiliser ses bénévoles, qui sont volontaires, évidemment, et qu'on puisse sensibiliser au fur et à mesure plusieurs groupes de personnes qui, elles, vont retourner dans leur vie respective avec un bagage, un regard peut-être qui change, ou des réflexes. Déjà, juste les réflexes, c'est très bien. Et donc, dans Capacité, au fur et à mesure, les festivals, et sur d'une année à l'autre, si nous, on ne revient pas, pour X raisons, ils ont quand même leurs bénévoles qui ont déjà eu un petit historique et quelques bons réflexes, peut-être à remettre en place.
Mmh. Et tu parlais tout à l'heure le fait de pouvoir accompagner des personnes qui sont victimes d'actes, et après tu parlais aussi du signalement. Est-ce que tu peux expliquer comment on signale ?
Alors, il y a plusieurs manières dans un milieu, dans un espace festif, je dis ça, c'est un concert, un festival, ou parfois même des espaces qui sont dans un entre-deux. On est pro et on va boire un verre parce qu'on travaille dans le milieu et que c'est ce qui se fait. Il y a plusieurs manières. Beaucoup de structures maintenant affichent des messages, affichent des petits guides, des petits modes d'emploi être un bon allié et aussi se prémunir, c'est aussi regarder les affichages, se renseigner parce que ça peut nous servir, ça peut servir aux autres. Mmh. Comment signaler ? Il y a aussi le fait de se diriger vers... Je prends aussi l'occasion de parler d'autres structures qui font ça. Donc, y a la structure We Take Care que vous avez déjà accueillie. Et il y a une autre structure qui s'appelle Safer. Il y a aussi le fait de pouvoir signaler à Safer, We Take Care ou à la Brigade du Love. Ne pas hésiter à aller voir les personnes. Et ensuite, il y a le fait de se diriger vers quelqu'un qui travaille, qu'on sait qu'il ou elle travaille pour le festival, les agents de sécurité, les personnels qui sont, les personnes qui sont soignants ou soignantes, les secouristes. Et on peut signaler quand on est victime et on peut signaler quand on est témoin. Et tout va bien avec ça. Et au contraire, il faut le faire. Parce qu'il vaut mieux signaler pour pas grand-chose et se dire « Ok, tout le monde va bien, ok, on trinque et on retourne faire la fête », plutôt que se dire « Ah non, non, quelqu'un d'autre s'en occupera ». J'en profite pour parler du syndrome de l'imposteur, du syndrome du spectateur. C'est le fait de se dire « Quelqu'un d'autre le signalera à ma place ou ira voir la personne à ma place », et ce qui crée une sorte de paralysie générale où personne ne réagit.
Il y a une manière de signaler que je trouve géniale et je ne sais pas si elle est propre à Sound Sister ou si elle se généralise. Peut-être il faudra la diversifier un petit peu quand elle devient trop connue, mais c'est le fait de commander un cocktail Angela au bar. Ça, je trouve ça hyper simple. En fait, c'est vraiment un geste super et je pense que tout le monde n'est pas encore au courant. Et en même temps, je me dis, à partir du moment où tout le monde et au courant, ça peut aussi peut-être minimiser la portée de ce modèle de dénonciation. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve vraiment top. Et je ne sais pas s'il y a d'autres petits moyens comme ça qui peuvent être vraiment facilement saisis sur le coup, quoi, au bar. Bah, ça implique aussi, j'imagine, la formation du personnel de bar, ne serait-ce que pour faire un relais, etc.
Oui.
C'est vrai qu'il faut que les gens du bar le sachent. On est d'accord. Il faut avoir formé les personnes qui font le...
Donc il y a Angela et il y a très récemment sur les réseaux sociaux est apparu aussi le fait de demander à une personne si ses vêtements viennent d'une certaine marque et si la personne disait oui c'est qu'elle avait un problème. Donc il y a une multitude de manières de pouvoir signaler discrètement et c'est trop bien parce que ça nous permet de prendre soin les uns les unes des autres. Et effectivement, ça a un peu cet aspect-là où il faut que les équipes puissent être formées. Et aussi, il faut que les équipes puissent gérer. Parce que des fois, quand on est au bar, c'est un peu difficile à la fois de faire son travail et de pouvoir correctement écouter une personne. Mmh. Mais tous les moyens sont bons, et même pour les alliés. Donc, même si vous ne signalez pas, vous pouvez aussi vous adresser à une personne en disant « Hé, hey, t'es pas la copine de Manon et tout !» Et en fait, de rentrer dans la discussion finalement de voir si la personne a un regard un peu qui alerte ou quoi.
Mmh. Je vois le temps qui file, mais je voulais te poser une dernière question sur cette première partie d'émission. Oui. Tu nous parlais tout à l'heure des bons réflexes. Et d'avoir au moins des bases que vous transmettiez aux associations à qui vous faites les formations. Est-ce que tu peux nous transmettre quelques grands réflexes? Là, on en a parlé de quelques-uns, mais on va dire des indispensables à connaître et que celles et ceux qui nous écoutent pourraient se dire « Ah oui, tiens, je suis bien content d'avoir appris ça ».
Alors, il y a la méthode des 5D. Oh, j'espère pouvoir tous les citer. Alors, il y a le fait de... pouvoir... Oh là là, j'ai un trou de mémoire. Je suis trop nerveuse.
On regarde après la deuxième... après oui. Ok, et bah, ça sera la question pour juste après la respiration musicale. Il n'y a pas de souci sur les 5D. On a hâte de pouvoir les entendre. Je pense que c'est d'intérêt public que de les entendre. Mais donc, puisque c'est le moment de la respiration musicale pour nous toutes et tous, je te laisse tranquillement, Basma, nous présenter ce que tu as décidé de nous faire écouter. Pouvoir trouver ton anti-sèche et nous le présenter juste après la pause.
Merci. Donc c'est une chanson d'un groupe qui s'appelle The Kills. Pardonnez mon accent en anglais. Donc le titre c'est The Heart is a Beating Drum. C'est une chanson qui m'a beaucoup encouragée et motivée parce que pour moi elle prend son sens dans le fait qu'elle me donne de la force de trouver les bonnes raisons pour continuer à faire des choses. Et ces bonnes raisons-là, cette chanson parle du fait que c'est à l'intérieur de nous, que ce n'est pas des choses qui sont extérieures, c'est vraiment le sens que prennent les choses à l'intérieur de nous. Voilà, bonne écoute.
Merci beaucoup, on se retrouve juste après pour La Forêt des Possibles. We'll be right back. Vous êtes de retour sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission de La Forêt des Possibles. Et nous avons toujours le plaisir de recevoir Basma Chayani qui nous présente l'association des Sound Sisters. Et juste avant l'émission, nous posions la question de savoir quels étaient les bons réflexes à avoir qui sont d'intérêt commun, collectif pour chacun et chacune. Et tu nous parlais de la question des 5D avec une petite colle qui a été posée, mais la réponse est désormais trouvée. Et donc, je t'invite à nous présenter quels sont les bons réflexes à adopter.
Oui, les bons réflexes se résument dans la méthode des 5D. C'est le fait de distraire, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. Si je peux peut-être en définir quelques-uns, le fait de distraire, c'est de pouvoir, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir rentrer dans une discussion avec un sujet qui n'a rien à voir, d'occuper un peu l'espace. Et le fait de déléguer, c'est le fait de pouvoir repérer une personne qui peut régler la situation, qui nous aide, qui peut nous aider. Le fait de documenter, c'est pas quelque chose qu'on conseille de faire directement. Dès les premiers instants, mais finalement de garder des traces, peut-être des photos, des vidéos qui peuvent être utiles un petit peu plus tard. Ensuite, le fait de dialoguer, c'est finalement faire redescendre un peu toutes ces émotions et tout, et de parler tranquillement, de dire bon, peut-être cette personne est mal à l'aise, que tu aies fait ci, tu aies fait ça, peut-être que tu es trop proche, etc., etc. Et donc de temporiser. Et le fait de diriger, c'est ok, on le conseille pas non plus de faire ça dès le début, mais finalement c'est de faire face à la personne et de dire écoute, bon bah voilà, de diriger, de dire bon bah là tu es gênant et on aimerait bien que tu changes d'espace ou que ton comportement n'est pas bon en ce moment.
Mmh. Et donc ces 5D, ça fait partie de certaines choses que vous présentez notamment dans vos formations.
Oui, effectivement. Donc le troisième et dernier axe de l'association, c'est des formations à l'égalité et à la lutte contre les VHSS qui sont destinées à des professionnels. Et donc la formation se décline en 6 modules qui peuvent être faits selon les besoins et les envies des équipes. Et donc c'est un peu notre plus jeune activité, c'est un peu le fruit de cette expérience-là, de travail, de documentation, de formation qu'on a eu par ailleurs, de ce travail de terrain. Et on s'est dit, bon ben voilà, c'est peut-être le moment de le transmettre. Donc on est en partenariat avec deux structures, le Pôle Info Musique, et une structure de la Friche qui s'appelle l'Aide aux musiques innovatrices. Donc c'est deux structures qui sont certifiées Calliope. C'est des organismes qui sont certifiés Calliope, et donc ça nous permet de faire nos formations et de pouvoir, donner la chance à ces personnes-là de se faire financer par des opérateurs de compétences ou quoi, que ce soit dans un cadre professionnel.
Merci Basma. On a bien compris donc la question, que Sound Sister propose à la fois un programme de mentorat, des accompagnements pour les structures et des offres de formation pour lutter contre les VHSS, que sont les violences et le harcèlement sexiste et sexuel, et notamment pour tout ce qui va concerner les festivals et ensuite les musiques actuelles. Et donc on peut vous retrouver évidemment sur différents réseaux, j'imagine, et tu pourras nous les présenter à la fin, puisque je te poserai la question spécialement. Mais d'accord. Désormais, on va changer d'échelle. Tout le concept de la forêt des possibles, c'est d'inviter chacun et chacune à trouver sa juste place, du moi au nous et du nous au tout. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait que la volonté d'action puisse se trouver à l'intérieur de soi quand tu nous présentais la musique. Et c'est pour ça que je t'ai posé ces questions au départ, de savoir quel était ton parcours et qu'est-ce qui avait ému tes engagements. Ensuite, on a présenté ton projet. Et maintenant, ce que je vais te demander, c'est un peu ta vision, tes aspirations. Et donc, si tu l'acceptes, je vais t'inviter à fermer un peu les yeux et à te projeter dans une Marseille en 2035 sur lequel vous avez réussi et sur lequel, finalement, la question des violences et les harcèlements sexistes et sexuels ont été pleinement intégrés dans l'éducation, dans la formation. Et c'est devenu quelque chose de tout à fait organique sur la manière de pouvoir faire face à ces choses-là, voire même qu'il y en ait beaucoup moins. Et donc, j'aimerais que tu puisses ressentir la joie que ça procure d'avoir réussi ça et te concentrer sur tes différents sens. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Qu'est-ce que tu entends autour de toi? Qu'est-ce que tu touches? Qu'est-ce que tu sens que d'avoir réussi ça? Et donc, une fois que tu l'as dans ta tête, ce que je te proposerais, ça va être de nous présenter à quoi elle ressemble, cette société, Et donc ça, c'est la première question. Et comment on a fait pour y aller ?
Je vois une société qui... Je vois des gens dans l'espace public. Déjà, je vois des gens dans l'espace public à tout moment de la journée ou de la nuit, à tout moment de la vie, se sentir bien, occuper l'espace public et y faire ce qu'ils aimeraient y faire. Les gens s'amusent, les gens discutent, les gens regardent le ciel, peut-être. Et je vois des gens qui se sentent bien dans un espace public. Ce que je pourrais entendre, c'est le fait d'entendre peut-être des discussions dans le bus sur le fait d'avoir eu un cours au collège sur les violences sexistes et sexuelles. Deux collégiens, collégiennes qui discutent de ça. J'avoue que le toucher, ce serait plutôt quelque chose de... je sais pas, une boule à facettes. Okay. Quelque chose de festif et de totalement détendu et qui ne mériterait pas une réflexion superflue. Qu'est-ce que j'ai oublié ? On est à Marseille. Finalement, peut-être l'odeur des... un journal frais quelque chose de libre, une parole un peu plus libérée, une presse un peu plus libérée qui reviendrait vers quelque chose, le papier, et un retour à un moment où la presse, les médias allaient bien.
Vous avez parlé de la presse, et là ma question elle était autour de la question des imaginaires.
Oui.
Et donc au-delà de la question éducative, il y a aussi une question de bataille des imaginaires sur ces enjeux-là. Quand on discutait un peu ensemble, tu nous disais qu'il y avait eu... Finalement, la communauté queer était sur la question des différentes souffrances et le fait que différentes personnes puissent se soutenir malgré la diversité de leur situation et de leurs souffrances. Comment est-ce que toi, tu vois cette question culturelle qui aujourd'hui a quand même pas mal de l'aile quand on regarde un peu l'actualité internationale, où on se dit, en fait, ces sujets-là, on les remet un peu de côté. Quel est ton regard ?
On remet de côté les... qu'est-ce que tu veux dire ? On remet de côté...
Donald Trump, tu vois. Prenons cet exemple-là. On ne va pas dire que ça soit des enjeux très centraux, tu vois, quand on regarde vraiment les grands enjeux géopolitiques, alors que ça montait quand même de plus en plus dans la société ces dernières années. J'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de grande mise de côté avec des guerres qui nous ont complètement éloignés d'une prise de conscience de qui nous sommes et comment, pour revenir à la question de l'altérité,
oui,
comment on se situe par rapport aux autres. Donc je reviens sur la question,
oui,
des imaginaires.
Je pense qu'il y a cet effet d'éloignement et aussi d'occupation de l'espace mental, finalement, qui après fatigue et ne nous laisse plus peut-être assez d'outils, assez de temps aussi. Ça se comprend, mais il y a le... Enfin, moi, j'aime bien revenir sur le fait que les militantismes, qu'ils soient féministes, queer, peu importe, c'est aussi de ça qu'on parlait, c'est le fait que les militantismes ont cette possibilité de pouvoir se définir par eux-mêmes et de trouver leur place. Et par exemple, pour les militantismes queer, c'est... j'aime beaucoup la perméabilité de cet engagement et de ce mouvement et de cette communauté, parce que justement, c'est une communauté qui s'est construite à la base, le mot queer, c'est une insulte, qui s'est construite de ça, d'une sorte d'une révolte, du fait que les gens se sont regroupés en se disant « Ok, on est différents et différentes, faisons communauté, faisons front, tout en gardant nos différences. » Et je trouve que la queerness est belle dans sa capacité à pouvoir avoir cette plasticité d'inclure de nouvelles personnes au fur et à mesure du temps, et que de par sa définition, elle pouvait changer de visage, changer d'action et évoluer au fur et à mesure des débats politiques, écologiques, tout comme le féminisme d'ailleurs.
Une intersectionnalité des sujets, si on est, si c'est ça que tu es en train de nous dire.
Oui. Y a le... Là, en fait, cette intersectionnalité, si on prend, tu vois, il y a des débats par rapport au lien avec le soutien qu'apporte la communauté queer au peuple palestinien. On en parlait la dernière fois, c'est de dire comment ça se fait que des personnes queer peuvent soutenir des gens qui sont qui peut-être dans leur pays pourraient être homophobes, transphobes. Je trouve que justement c'est parce que la communauté queer a connu la différence, l'adversité et à cette approche intersectionnelle d'avoir pu allier sexisme et racisme, que certaines personnes ont connu sexisme et racisme, certaines personnes ont connu racisme et transphobie, qui permet en fait à la communauté de pouvoir avoir toujours des forces et des belles choses à offrir et de soutenir des communautés qui sont très différentes. Et aussi le fait que je reviens sur le fait que chaque militantisme doit se définir par ce qu'il est à l'intérieur et ce qui nous motive les uns et les autres, plutôt que par quelque chose de « Ah, et si on se projetait dans X situation, ça pourrait donner ci ». Je pense que c'est aussi le cas pour en fait, l'écologie ou quoi. C'est qu'est-ce qui, en nous, fait écho dans un mouvement, dans un acte, dans un positionnement et qui nous permet de continuer à être militants.
Et est-ce qu'on ne peut pas réintroduire la question de l'altérité dont tu parlais tout à l'heure? J'ai l'impression que c'est un peu le mot fil rouge de toute la réflexion. C'est aussi la prise de conscience de l'autre dans toute son humanité et comment on se positionne avec justesse. Tu disais toi vis-à-vis des autres, puis après le groupe vis-à-vis des autres causes.
Comment on se positionne vis-à-vis des autres? C'est une question difficile et je dirais que une des réponses, ce serait de prendre conscience de l'autre et de voir qui on est. En fait, prendre conscience de l'autre, c'est voir qui on est et qu'est-ce qui a fait qu'on est là, qu'est-ce qui a fait qu'on est nous. Prendre conscience de sa posture, de son expérience, je sais pas, de ses revenus, de son bagage familial, et de se dire, ok, pourquoi l'autre est alter pour moi, et pourquoi je suis son alter, et finalement, pas forcément aller sur des terrains communs, mais de dire bah, comment on peut cohabiter ensemble, parce que c'est bizarre, on ne peut pas être l'autre de quelqu'un si on n'est pas son autre aussi, et en fait on existe parce que l'alter existe, donc tout est corrélé, et on ne peut pas être soi sans qu'il existe un alter.
Ce qui est intéressant, c'est que j'allais te poser justement la question d'un féminisme qui intègre. On en parlait hein, quand on préparait l'émission, sur plutôt que d'être dans des parfois des enfin de prendre conscience de la question des déséquilibres de système, et ça être on va dire exact sur quels sont les déséquilibres systémiques, et ensuite malgré tout d'intégrer chacun chacune dans ce dans cette prise de conscience là. Et tu me disais que la question, c'était pas tant de construire contre, mais d'aller vers ses envies. Est-ce que tu peux étayer?
Bien sûr. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le féminisme, c'est être féministe, c'est être contre les hommes. En fait, ça, c'est, je trouve que c'est une manière de penser qui est un peu se définir par la négation. Et c'est pas quelque chose sur lequel on peut construire quelque chose. C'est pas quelque chose qui va nous inspirer, nous donner des idées et faire qu'on peut inclure de nouvelles personnes, avoir de nouvelles idées et faire évoluer les choses. C'est être féministe, c'est identifier ce dont on a besoin, comprendre qui on est, la place qu'on aimerait avoir et prendre position pour arriver à cet objectif-là et ne pas être contre quelque chose. Et construire quelque chose d'optimiste et de constructif, ça part de soi et du mouvement lui-même. Le mouvement a beaucoup évolué. Et il faudrait pouvoir se dire qu'est-ce que je veux et comment je me projette dans une société qui me plaît, de fermer les yeux et de s'imaginer en 2035.
Est-ce que c'est pas un super mot de conclusion, ça ?
Je dirais que oui.
Ouais.
Oui.
Alors, sur cette conclusion-là, on peut donner des éléments plus pratiques avant de rendre l'antenne. Comment est-ce qu'on vous retrouve avec Sound Sisters ?
Alors, on a un site avec plein d'informations, de détails sur tout ce qu'on fait. On est sur Instagram, Facebook et LinkedIn, le petit classico. Sinon, on est joignable par mail.
Très bien.
Et deux fois par an, on organise des soirées. Donc, c'est la phase pratique du programme de mentorat et notre assemblée générale. Venez toutes et tous, parlez-nous on a hâte de vous entendre.
Et ben merci beaucoup Basma pour cette émission passionnante. Merci à Jeanne et à Elissa en régie d'avoir assuré le fait de pouvoir nous enregistrer. Enfin, coucou à Mathilde aussi qui était en régie avec nous. Et on rend l'antenne pour cette fois-ci. Bonne soirée, merci beaucoup.
Merci à toi, bonne soirée à toutes et tous. Merci la régie.